Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cinéscopie, le magazine du cinéma et de la musique de film. Une émission proposée et animée par Laurent Craven et Chris Lucas. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. En direct donc sur RTF, et pour vous parler de l'actualité du cinéma, évidemment nous sommes allés voir les blockbusters de la semaine, à savoir Disclosure Day, le dernier film de Steven Spielberg, et puis The Furious, un film de kung-fu, un film de baston assez hallucinant, on en reparlera peut-être. L'actualité de la musique de film aussi, c'est dans cette émission, l'actualité de la musique de film, eh bien c'est par exemple la parution chez Artus Film d'un très beau livre que j'ai entre les mains, je l'ai sous les yeux. Ça s'appelle Backstage, c'est une autobiographie signée Fabio Frizzi. Alors Fabio Frizzi, c'est un musicien né à Bologne en 1951, qui a grandi à Rome et qui, dès son plus jeune âge, a été fasciné par la musique. Et s'est donc naturellement tourné vers la composition de bandes originales. Et c'est une très belle autobiographie où Fabio Frizzi raconte évidemment toutes ses rencontres avec Ennio Morricone, le groupe Goblin, Edda Del Orso, Paul McCartney, Dario Argento. Alors on le connaît, Fabio Frizzi, vous le connaissez peut-être si vous avez vu les films de Lucio Fulci, parce qu'il a signé la musique de nombreux films de Lucio Fulci, à savoir Les Quatre de l'Apocalypse, L'Emmurée Vivante, L'Enfer des Zombies, Frayeur ou encore L'Au-delà. Voilà donc des films culte. Donc si vous voulez en savoir davantage sur cette époque du cinéma italien et puis sur ce compositeur attachant, eh bien je vous conseille donc, alors je ne sais pas si on peut encore se le procurer sur le site de chez Artus Film, mais en tout cas ça s'appelle Backstage et le livre est traduit de l'italien, annoté par Lionel Grenier, qui lui est un spécialiste de Lucio Fulci. Il a d'ailleurs un site, un site qui s'appelle tout simplement luciofulci.fr, dans lequel eh bien il défend l'œuvre du réalisateur italien à travers des articles tout à fait érudits et passionnants. Voilà. Et donc c'est lui qui a pris en charge la traduction de cette édition française du livre de Fabio Frizzi, Backstage, qui existait déjà, je crois que le livre était sorti dans les pays anglo-saxons. Et nous, on a une édition assez passionnante, alors en plus enrichie de deux chapitres supplémentaires, justement, par rapport à l'édition anglo-saxonne. Et en feuilletant le livre, je m'aperçois en plus qu'il y a d'assez nombreuses illustrations, des photos personnelles de Fabio Frizzi, et puis également des reproductions de partitions, de pochettes de disques et tout ça en couleur, donc de la belle ouvrage Fabio Frizzi, Backstage, c'est chez Artus. J'espère que ce sera on pourra se le procurer facilement à l'avenir. On vous parlera bien évidemment dans cette émission de l'actualité de la vidéo dans quelques instants. Le support physique, on le défend, vous le savez, on se bat un petit peu contre la dématérialisation, donc et on défend aussi le cinéma en salle. Tiens, puisqu'on parle de cinéma en salle, Paramount vient de racheter, ça y est c'est fait, vient de racheter Warner pour la modique somme de 111 milliards de dollars. Bon, alors je ne sais pas si Paramount va s'y retrouver là-dedans, mais bon, je pense que Trump a dû donner un petit coup de pouce pour que cette acquisition puisse se faire. Bah, oui. Il y a des chances. Hein,
oui, cas. Oui, bonsoir. Oui, oui, je pense, parce que tout simplement, c'est un catalogue assez phénoménal que celui de la Warner, et donc ça apporte véritablement une diversité qui va certainement porter ses fruits, peut-être aussi dans le la vidéo dématérialisée de Paramount Plus
sur les plateformes,
sur les plateformes. Ce qui n'est pas véritablement une très bonne nouvelle pour le puriste que nous sommes nous aussi, parce que tout simplement je ne vois assez, enfin je vois un avenir assez morose en tout cas sur cette dématérialisation, je pense que c'est très certainement, même si on dit que le cinéma est je dirais que complémentaire à l'offre dématérialisée, je pense que sur du long terme, je pense que ça sera plutôt toxique. Mais bon, voilà. Après, à voir. Mais je défends bec et ongle, je dirais le cinéma en salle, mais aussi sur support physique. Et on le voit bien d'ailleurs en ce qui concerne l'audio, l'engouement ces dernières années pour des jeunes générations d'ailleurs, hein, pour un support qui existe depuis déjà fort longtemps, c'est le vinyle. Et aujourd'hui, il a le vent en poupe. Et donc, pourquoi pas faire un petit peu machine arrière sur la dématérialisation à tout va, parce que tout simplement, je pense que ça fait une bonne partie de mécontents, en particulier financièrement, parce que il y a des échappements d'abonnements et de tarifs abonnements, des dérapages, on le voit aujourd'hui, mais aussi en fait. Le fait de quand on réfléchit un petit peu, eh bien on se rend compte que on finance quelque chose que l'on ne possède pas en fait, voilà. Et donc forcément à un moment on peut quand même se poser les bonnes questions, et pourquoi enrichir des grandes multinationales alors que on pourrait éventuellement quand même posséder un bien et le du moins le garder, éventuellement le visionner quand on le souhaite et non pas quand ces plateformes le souhaitent.
Exactement. Et bien voilà, donc l'actualité, c'est ça aussi, l'actualité économique du cinéma.
Malheureusement, c'est aujourd'hui, c'est la très grande réflexion. Hein. Le cinéma est quand même un gros parallèle financier. Ça l'a toujours un peu été, mais là, plus que jamais.
Très bien. Eh bien, nous allons commencer cette émission en musique, comme nous en avons l'habitude.
Oui. Alors là, pour le coup, un grand hommage aux grands espaces. Et c'est vrai que quand on parle de grands espaces, on pense tout de suite à soit des grands réalisateurs, mais aussi à des acteurs qui ont défendu, je dirais l'environnement, comme Robert Redford, entre autres. Et là, pour le coup, c'est pour la musique d'un film de 1990, alors qui n'est pas de Robert Redford, mais qui est d'un autre grand acteur et réalisateur. C'est Kevin Costner pour le film Danse avec les loups, où on retrouvait bien sûr Kevin Costner, Marie McDonnell, Graham Greene, entre autres. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs pour ce qui concerne Kevin Costner, c'est que il nous a proposé il y a 2-3 ans, me semble-t'il, un premier volet d'une grande saga qui aujourd'hui peine à voir le jour, hein, après ce premier volet. Le deuxième était annoncé
Un peu dans la foulée du premier,
mais voilà, un peu retardé après, mais là on est un petit peu impatient quand même.
On se pose des questions, est-ce que
surtout qu'en plus je pense que ce deuxième volet est en boîte, mais quand les producteurs vont vouloir le proposer au public, ou est-ce que ça sera éventuellement un jour directement en vidéo, je ne sais pas. En tout cas, ça sent pas très bon, en tout cas, pour une sortie dans l'été. Je crois d'ailleurs que le premier volet, il était sorti au mois de juillet, et il n'a pas eu un franc succès, il faut bien le dire. On espère toujours. Enfin, en tout cas, revenons à Danse avec les loups et à sa musique, qui a été composé à l'époque par John Barry. Et donc, on va écouter une suite orchestrale dirigée par John Barry lui-même et le Royal Philharmonic Orchestra sur un album qui a eu un grand succès. Alors, en fait, cet album fait partie de deux volets. Hein. C'est l'album qui s'intitule Moviola. Et donc, vu le succès du premier volume, eh bien, John Barry s'est lancé dans un enregistrement d'un deuxième avec un grand hommage au cinéma de James Bond. Et d'ailleurs, ce Moviola 2 s'intitulait Action et aventure, donc parce qu'il regroupait donc une grande partie des thèmes des films de James Bond, mais aussi les musiques de King Kong, du film Zulu, qui vient de sortir d'ailleurs en support physique, en 4K d'ailleurs, et donc aussi une rétrospective de cette très belle partition consacrée à Danse avec les loups, et on va écouter le thème Farewell et le final, le final numéro 1 et numéro 2, et donc on est parti pour un voyage à travers les loups de pas loin de 10 minutes. Voilà.
Quand la musique est bonne, on ne compte pas.
Allez, c'est parti. Bon safari.
Voilà, dans les plaines westerniennes.
Voilà, sur Danse avec les loups. John Barry, Kevin Costner.
Oui, vidéo.
Eh bien, c'est le moment de vous parler de l'actualité du support physique, DVD, Blu-ray, Steelbook, comme nous en avons l'habitude dans cette émission. Et de quoi on va vous parler ce soir? Eh bien, on va commencer par un film fantastique réalisé par Sam Raimi. Alors, j'ai un doute, je me demande si Laurent ne nous en a pas parlé lundi dernier, mais enfin, autant quand même rappeler l'existence de ce film, parce que c'est quand même une belle réussite. Ça s'appelle Intuition, film réalisé en 2000 par Sam Raimi. L'histoire d'une jeune fille de bonne famille qui disparaît. Du coup, la police enquête et a recours au service d'une voyante. Une voyante dont les dons sont évidemment contestés. Cette voyante, elle est interprétée dans le film par Cate Blanchett. À ses côtés, Giovanni Ribisi et Keanu Reeves. Un film, un très bon film, un très bon thriller de Sam Raimi. Alors, peut-être un petit peu moins débridé que ses films précédents. Une réalisation plus sobre. Mais voilà, une très très belle photographie, une superbe musique composée par Danny Elfman à l'origine. Enfin, il écrit un thème, en fait, pour le film. Et pour des raisons, d'ailleurs, qui m'échappent, il est remplacé par Christopher Young. Donc, c'est la musique du film Intuition est composée par Christopher Young. Bah, alors, c'est une réussite, là aussi, hein, de toute façon, la musique. Et le film vous est proposé par l'Atelier d'Images dans un combo UHD Blu-ray. Donc, vous avez le film en 4K et puis un Blu-ray standard. Des bonus assez intéressants, notamment l'analyse du film par un journaliste et puis des entretiens récents avec les deux monteurs du film ainsi que le compositeur Christopher Young. Donc, c'est vraiment une opportunité de découvrir ce compositeur que nous adorons d'ailleurs dans Cinéscopie. Ça s'appelle Intuition. Le titre original, c'est The Gift et c'est un film que je me rappelle avoir découvert en salle à Limoges à l'époque de sa sortie. Voilà. Quant au master, bah, il est nickel chrome, donc voilà, très très belle qualité d'image pour ce film. Vous pouvez y aller sans problème. Alors, je vous parlais la semaine dernière, je l'avais évoqué, du film de Christophe Gans, Retour à Silent Hill. Eh bien, c'est Metropolitan qui vous propose ce film, réalisé donc par le metteur en scène français Christophe Gans. Il avait déjà réalisé le premier volet, Silent Hill. Donc pour ce retour, un homme reçoit une étrange lettre de son ex-compagne décédée qui l'incite à revenir dans la ville désormais méconnaissable où ils ont vécu. Voilà le point de départ de ce film, avec dans les rôles principaux Jeremy Irvine, Anna Emily Anderson et Evie Templeton. La musique est signée Akira Yamaoka, c'est le compositeur de la musique du jeu vidéo, parce qu'à la base, effectivement, c'est un jeu vidéo. Alors, Metropolitan vous propose ce film uniquement en Blu-ray, apparemment, il n'y a pas de 4K, et en termes de bonus, eh bien, malheureusement, il n'y a pas grand-chose, il y a quelques modules assez courts qui forment une sorte de making-of de ce film. Et puis, par contre, concernant l'image, bah là, c'est le top. Hein. Enfin, c'est le top de l'image, du transfert. Donc, vous pouvez quand même regarder ce film, vous procurer ce retour à Silent Hill, qui n'a pas été bien accueilli par la critique, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, que je trouve quand même plutôt honorable, même si j'ai quand même et de loin préféré le premier volet. Universal Pictures, eh bien, nous présente un Blu-ray d'un film assez attendu, c'est Hamnet, le drame de Chloé Zhao, avec dans les rôles principaux Paul Mescal, Jesse Buckley et Emily Watson, film réalisé en 2025, qui a remporté pas mal de prix d'ailleurs, Golden Globe du meilleur film et de la meilleure actrice pour Jesse Buckley, et Jesse Buckley qui d'ailleurs a gagné l'Oscar de la meilleure actrice, et c'est une récompense d'ailleurs bien méritée. Ce film nous entraîne dans l'Angleterre du XVIe siècle. Un professeur de latin s'éprend d'une jeune femme indépendante, proche de la nature, avec laquelle il aura 3 enfants et dont le destin dramatique débouchera sur l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature, ce professeur de latin n'étant autre que William Shakespeare. Et Hamnet, c'est le nom de ce jeune garçon qui va connaître un sort tragique et qui va inspirer à Shakespeare, enfin en tout cas c'est la version proposée par Chloé Zhao, la fameuse pièce Hamlet. C'est un film coproduit par Steven Spielberg et Sam Mendes, une œuvre assez forte d'ailleurs sur le deuil et la création, et c'est vrai que si on fait fi de quelques inexactitudes historiques, et même Hamlet, c'est pas tout à fait ce qu'on nous dit dans le film, enfin c'est pas bien grave tout ça, parce que on est quand même pris par l'histoire, par l'interprétation, notamment de Jesse Buckley, et le final est tout à fait sublime. Voilà, donc, je vous le conseille. C'est un film qui vous est proposé en Blu-ray, mais un Blu-ray de très bonne facture. Voilà, c'est vraiment un ravissement pour les yeux. Et puis, y a un commentaire audio quand même qui est assez intéressant. Commentaire audio de la réalisatrice, assez émouvant d'ailleurs. Voilà, donc un bon film de Chloé Zhao, c'est Hamnet, et celui-ci, je peux vous le recommander sans problème. Et puis alors, je l'avais évoqué également la semaine dernière, on va en dire un mot quand même ce soir, c'est un film français un peu oublié, ça s'appelle Le voleur de crime, un thriller réalisé par Nadine Trintignant en 1969, avec Jean-Louis Trintignant, Robert Hossein et Florinda Bolkan. Dans ce film, Jean-Louis Trintignant joue le rôle d'un homme dont l'existence est frappée d'un ennui profond et qui s'attribue la mort d'une femme dont il a fortuitement assisté au suicide. Voilà, c'est adapté d'ailleurs d'un fait divers, ce film, et c'est un film vraiment très intéressant, magnifiquement interprété. Alors les bonus sont vraiment très intéressants, puisqu'on y trouve un portrait de Nadine Trintignant, une analyse du jeu de Jean-Louis Trintignant par un maître de conférence, l'évocation du fait divers d'ailleurs qui a inspiré ce film. Et puis alors le film, la qualité de technique est au rendez-vous, puisque les images sont nickel chrome. Voilà, donc c'est alors en plus, parlons du son, il est limpide et la bande originale composée par Jack Harrell est vraiment superbe. Donc c'est un film à redécouvrir de toute urgence et qui vous est proposé. Là, je pense que c'est un nouveau label, Insert et Cut Production. Je pense que c'est, je pense que c'est un nouveau label et il commence, je trouve, plutôt fort avec ce film Le Voleur de Crime, qui est vraiment à découvrir. Alors maintenant, je voudrais aller du côté de l'import, parce que il y a quand même des choses intéressantes qui se passent chez les anglo-saxons. Alors en particulier, l'apparition chez le label Shameless du film Suspiria. Alors il est bien connu, ce film de Dario Argento, avec Jessica Harper, Alida Valli, Miguel Bosé, l'histoire d'une jeune américaine qui se rend dans une académie de danse à Fribourg, et qui s'avère abriter en fait un repère de sorcières. Un film totalement baroque, magnifiquement mis en scène et photographié par Luciano Tovoli. Et là, eh bien, Shameless nous propose le 4K, donc le film en ultra haute définition. Et alors, dans un transfert approuvé par Dario Argento, il faut le préciser. Et là, quand même, l'image est à son top. C'est certainement peut-être le plus beau transfert de ce film Suspiria sur support Blu-ray. Donc, dans ce transfert 4K, c'est chez Shameless. Alors, en plus, il y a des tas de bonus vraiment formidables. Donc, si vous ne connaissez pas Suspiria, alors évidemment, il faut être un peu anglophone parce que c'est en italien, sous-titré en anglais. Ouais, voilà, mais bon, des fois il faut faire quelques sacrifices et puis voilà, vous allez vous travaillez vos langues. Je sais que par exemple en regardant les films asiatiques, eh bien Laurent est devenu un spécialiste du mandarin et du japonais, donc voilà, et du coréen bientôt, parce que voilà,
oui, je l'écris même, hein.
Ouais, non mais je n'en doute point. Non mais voilà. Alors Suspiria. Et alors ma dernière recommandation, parce que là aussi je suis pas certain qu'on trouve le film en France, hein, dans une édition française, c'est Le Corrupteur, un film de Michael Winner, réalisé en 1971 avec Marlon Brando et Stephanie Beecham dans les rôles principaux. Alors ça s'inspire du Tour d'écrou de Henry James. Suite au départ de leur tuteur, deux orphelins se retrouvent sous la coupe éducative de l'homme à tout faire du domaine familial, un homme qui entretient une relation toxique avec leur gouvernante. Film de Michael Winner, donc un film quand même assez trash, qui va jusqu'au bout de son propos assez glauque. Alors c'est assez subversif quand même, et du coup le film était sorti à l'époque, assorti d'une interdiction au moins de 18 ans, donc on dirait 16 ans aujourd'hui, en tout cas en France. Et donc c'est un film de Michael Winner assez passionnant, assez peu connu, avec une musique sublime de Jerry Fielding. Le titre original, c'est The Night Comers. Et c'est Studio Canal qui vous le propose, mais en import anglais. Alors peut-être que Studio Canal, du coup, risque de nous le sortir France.
C'est possible. Je sais qu'il y a eu une édition de DVD faisait partie d'une collection Studio Canal classique.
Ouais.
En DVD, donc, avec le liseré rouge. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait toute une collection. Et donc, Le Corrupteur en faisait partie. Mais de mémoire, je pense qu'il n'y a pas eu d'édition de très haute définition concernant ce titre-là.
Voilà, donc le film, en tout cas, ici, est proposé par Studio Canal en ultra haute définition. Par contre, il n'y a pas de traitement HDR ni de Dolby Vision sur cette édition, mais bon, l'image reste quand même de qualité. Et puis voilà, l'occasion de retrouver Marlon Brando. C'est un film vraiment très très intéressant. The Night Comers, Le Corrupteur. Ben voilà, pour ma petite sélection perso de ce soir. Laurent, je te cède le micro. Qu'est-ce que tu nous conseilles?
Alors, on va commencer par un film d'horreur.
Oui.
Qui date de 2024, qui a été interdit au moins de 12 ans lors de sa sortie. Film réalisé par Damien McCarthy, avec Gwilyn Lee, Caroline Bracken et Tald Murphy. Le titre de ce film, c'est Oddity, qui raconte l'histoire d'une médium aveugle. Un an après le meurtre sauvage de sa sœur jumelle, qui s'invite sur les lieux du crime, où son beau-frère vit avec sa nouvelle compagne et apporte avec elle une curieuse malle qui renferme une mystérieuse statue en bois à taille humaine. Et donc, c'est un film particulièrement intriguant, à base de tueurs psychopathes, de sorcellerie, de gémellité, de monstres, de fantômes et autres objets possédés. Riche en rebondissements, bien senti, doté d'ailleurs d'un montage assez malin, d'une photo magnifique et d'une bande-son assez oppressante. On va dire tous les ingrédients d'un bon film d'horreur. Et donc il bénéficie en outre d'une mise en scène généreuse en séquence horrifique située hors champ, jouant ainsi parfaitement avec l'imagination du spectateur. Donc c'est une production irlandaise, c'est assez étonnant, et qui transgresse volontairement les codes du genre pour mieux surprendre, et on le doit à BQHL. Et donc il y a une édition distincte, Blu-ray et 4K, et aussi DVD. Voilà. Donc dans une très très belle copie qui flirte avec l'excellence. Et donc, on va se précipiter parce que c'est un film qui, je crois, n'a pas été distribué en salle. En tout cas, de mémoire, j'ai pas souvenir. Ça peut être une excellente surprise.
Une réussite, réussite de Diamond McCarthy qu'on a retrouvé d'ailleurs au cinéma il y a pas longtemps avec son film Okoum.
Voilà. Autre film, alors là on change de registre, hein, on est dans le thriller, thriller de cette année, hein, qui s'intitule Reconnu coupable, de Timur Bekmambetov, avec Chris Pratt, Rebecca Ferguson et Kali Reiss. La musique est signée par un compositeur que l'on connaît bien, c'est Ramin Djawadi. Et on est dans un futur proche, un lieutenant de police accusé de meurtre de sa femme, qui dispose de 90 minutes pour tenter de prouver son innocence au système judiciaire basé sur l'intelligence artificielle qu'il a contribué à instaurer. Et donc, fort d'un pitch assez accrocheur et d'une mise en scène nerveuse et assez étourdissante au passage, qui juxtapose sans répit indices, preuves accablantes et échanges téléphoniques consentis à l'accusé cloué sur une chaise qui voit son existence passer au crible sous le regard inquisiteur d'une juge 100% virtuelle, et bien ce film d'anticipation étonnamment plausible en forme de course contre la montre, eh bien, stimule la réflexion sur les dérives sécuritaires et judiciaires de nos sociétés, sans toutefois d'ailleurs égaler la maestria du film de Spielberg, Minority Report, sur un sujet similaire. Et donc, malgré quelques effets de manche un petit peu roublards et une dernière ligne droite un petit peu cafouilleuse aussi, eh bien, avec un twist facultatif sorti du chapeau, ben voilà un thriller d'anticipation rendement mené, à qui on doit, parce que c'est une production, c'est assez rare aujourd'hui, MGM, qui le propose dans une édition DVD, Blu-ray et 4K de la plus belle facture. Donc voilà, intéressant. Film, alors on change de registre, mais là, c'est le cinéma fantastique. Un film que l'on connaît, je crois qu'il y a eu déjà des éditions, mais me semble-t-il de mémoire, pas en très haute définition 4K. C'est un film de Sam Raimi, avec Cate Blanchett.
Mais attends, j'en ai parlé tout à l'heure, Laurent. Tu allais parler d'intuition.
Ben voilà.
Et oui, non mais.
C'est une redite, on va dire.
Oui, voilà, mais tu veux te plonger dans tes petits boutons sur ta console. Là,
voilà, un petit doublon, on va dire.
Oui.
Mais, non, alors juste au passage,
c'est pas grave, c'est quand même un très bon film.
Voilà, c'est un très bon film qui était annoncé à plusieurs reprises, tout le temps repoussé par l'éditeur L'Atelier d'Images, qui est un éditeur indépendant. Et qui, bien sûr, l'avait annoncé déjà depuis fort longtemps, mais on l'attendait impatiemment. Et c'est chose faite, c'est déjà paru. Enfin, voilà.
Oui, voilà.
En 4K.
Voilà, donc en tout cas, ça vaut le coup parce que c'est vrai que c'est une réussite dans le genre. Et là, tu dis l'image. D'ailleurs, tiens, j'en profite pour ajouter un truc parce que je me suis acheté ce petit coffret. Enfin, il y a que deux Blu-ray dedans, mais c'est la saison 3 de Gangs of London qui vient de paraître chez l'Atelier d'Images. J'adore cette série policière britannique. Franchement, vous pouvez y aller. Achetez les trois saisons. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu violent quand même. Donc, si vous êtes un peu sensible, peut-être évitez. Mais si vous aimez voilà, une série qui dépote, je vous conseille ce Gangs of London.
Très bien. Alors, on va parler d'un classique western. Réalisé en 1957, alors ça c'est du lourd, hein. Qui sort chez Sidonie. Alors il y a eu déjà des éditions, mais là cette fois-ci c'est un Mediabook qui est annoncé, et là par contre il n'y a jamais eu de sortie dans cette présentation là. Combo Blu-ray 4K pour ce film. Bah, hyper connu, hein, où on retrouvait Burt Lancaster, Kirk Douglas, Rhonda Fleming, musique signée Dimitri Tiomkins et règlement de compte à OK Corral. Ah, Gunfight à The OK Corral.
OK Corral. Ah, c'était génial,
voilà.
Ça. Oui.
Et donc, bon, bah, c'est les prémices, hein, en fait. Il y a eu quand même beaucoup de films sur le registre, mais en tout cas, ça fait partie des premières grandes réalisations. Dans le cinéma américain, et bon, le western était à son sommet à cette époque-là, parce qu'on était dans les fins des années 50 et les années 60. Et donc, Sidonie nous le propose, et ça va débarquer bientôt, hein, le 19 juin. Donc, c'est pour dans quelques jours. Et donc, le Marshal Wyatt Earp et Doc Holliday, donc, qui s'unissent pour arrêter les agissements d'un groupe de hors-la-loi. C'est fondé sur des figures de l'Ouest américain ayant réellement existé, même si Wyatt Earp reste désespérément rebaptisé Edouard Thorpe dans la version française. Eh bien, le film a quand même atteint le stade du film mythique, je dirais. Et donc, pour le coup, eh bien, Sidonie, là encore, a fait une assez belle restauration. Alors, c'est pas parfait, mais bon, le film est quand même relativement ancien. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le détour. Et puis surtout, le Mediabook, qui est vraiment une pépite, parce que tout simplement, il y aura un livret de 52 pages, écrit par Jean-François Giré. Donc, franchement, ça vaut vraiment le détour. Que ce règlement de compte à OK Corral.
Ouais. Je crois que je vais me laisser tenter quand même, hein, parce que franchement, là, c'est une superbe édition.
Oui, mais toutes ces éditions chez Sidonie et Mediabook, je crois qu'elles sont incontournables. Ouais. On en avait parlé, bah, entre autres, avec Life Force, hein, qui ouais. est dans notre registre. Mais voilà, en tout cas, il y a une très très belle politique éditoriale, surtout pour proposer en fait, des œuvres dans un très très bel écrin. Et donc, c'est le cas pour ce film-là.
Oui. Bon, ben voilà, puis en plus, la BO de Dimitri Tiomkin, qui est superbe.
Oui.
Bon, ben, c'est un western incontournable.
Ben, c'est un incontournable, c'est ce que j'allais dire. Donc, voilà. Alors, film dramatique, film qu'on avait vu dans Cinéscopie. Alors, lui, par contre... ah si, je crois qu'il y a une édition Blu-ray et DVD proposée. Film franco-espagnol de Aloda Ruiz de Azúa. Avec Blanca Soroa, Miguel Garcés et Patricia López Arnaiz. Et donc ça s'appelle Les Dimanches. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, Les Dimanches, c'est l'histoire d'une adolescente scolarisée dans un lycée catholique qui manifeste, à la grande surprise de sa famille, le souhait d'embrasser la vie de religieuse. Et donc, entre l'incrédulité du père, la franche désapprobation de la tante et la déception d'un camarade de classe, eh bien, le parcours singulier de l'héroïne, campé avec une implication saisissante par Blanca Soroa dans sa toute première apparition à l'écran, qui permet à ce magnifique film de sonder avec délicatesse et sans jugement le mystère de la foi en questionnant l'attitude maladroite, voire contre-productive, des proches, à commencer par la tante dont les efforts pour dissuader sa nièce d'entrer dans les ordres entrent en contradiction avec sa prétendue tolérance. Voilà, donc c'est édité par Le Pacte, c'est une exclue enseigne. Et moi, je vous invite en tout cas à découvrir ce film-là, tellement il est, je dirais, assez juste et une mise en scène vraiment délicate. Et c'est en tout cas une surprise. Moi, je l'avais vu dans une salle qui ne donnait pas toute l'ampleur au film, mais franchement, c'est là encore une des preuves que le cinéma espagnol est en très très bonne santé, et il nous le prouve assez régulièrement d'ailleurs, et dans beaucoup de registres. Donc, comme je le disais, donc DVD et Blu-ray pour ce film, qui, je vous le conseille, est la petite surprise du moment, parce que c'est un film qui a eu une très très bonne critique à sa sortie et un petit succès d'estime. Et donc, c'est la deuxième vie donc en support physique. Et j'espère qu'il aura un franc succès auprès des cinéphiles. Allez, un petit dernier.
Allez, pour la route.
Pour la route. Alors, un film que l'on connaît. Et c'est vrai que je crois que l'éditeur Gaumont ressort régulièrement les éditions 4K des films de Luc Besson. Et donc cette fois-ci, c'est au tour de Jeanne d'Arc qui a bénéficié d'une sortie sortie Blu-ray, 4K, Steelbook, vous avez l'embarras du choix pour ce film avec Mila Jovovich, John Malkovich, Faye Dunaway. Très belle distribution. La musique est signée Eric Serra. Voilà. César des meilleurs costumes et du son. C'est l'histoire, bien sûr, de la pucelle d'Orléans. Alors, c'est une vision bessonienne, si je puis dire. C'est pas le film qui va rencontrer une adhésion, je dirais, unanime.
En même temps, je me souviens d'avoir vu en salle. Bon, il faudrait que ça fait longtemps que je l'ai vu, et du coup, j'ai pas un très grand souvenir, mais. Par contre, je me souviens que j'avais pas détesté ce film-là, et au contraire, j'avais trouvé que c'était plutôt une bonne surprise, finalement.
Alors, c'est une bonne surprise dans le traitement de Besson, parce que c'est un film assez mature, je dirais, et d'une intelligence assez inédite.
Chez Luc Besson, on peut faire en effet.
Et donc, là, pour le coup, la pucelle est ici exaltée, et Mila Jovovich s'avère d'ailleurs un choix assez précieux dans la réussite de cette version-là. Oui. Il faut bien dire que Jeanne d'Arc... alors, il y a des thèmes comme ça au cinéma qui n'ont jamais eu tellement de chance, et c'est vrai que les films sur Jeanne d'Arc... n'ont pas été d'une très grande qualité jusqu'à présent.
C'est pas facile.
Il y a beaucoup de réalisateurs qui s'y sont cassés les dents.
On se souvient d'une version, alors là, un peu plus austère, celle de Jacques Rivette.
Voilà, Jacques Rivette, que j'avais vu en salle aussi.
Et Sandrine Bonner qui joue le rôle.
Sandrine Bonner, en deux parties quand même, parce que il faut quand même une deuxième partie. Chaque film a abordé quand même pas loin des 3 heures. Donc pour vous dire, 6 heures sur... Jeanne la Pucelle. Et surtout, dans un style assez contemplatif... Ouais. Quand on connaît Rivette, eh bien, c'est pas facile. Voilà.
C'est pas facile. Mais je crois que le film de Besson est relativement long aussi. Hein. Il doit bien faire 2h30 quasiment. Hein. Chose comme ça.
Alors, je recherche dans mes petites notes.
Il me semble que c'était quand même un film.
Il flirte avec les 3 heures. On n'y est pas tout à fait, mais 2h40.
Voilà.
2h40. pour une édition en tout cas assez intéressante, en tout cas en ce qui concerne la version collector limitée exclue enseigne, tout simplement parce qu'il y a un livre qui l'accompagne sur l'histoire de Jeanne d'Arc. Et là, je ne parle pas de livret, je parle vraiment de livre, hein, parce que le livre fait 232 pages, avec l'affiche qui l'accompagne. Donc, ça vaut le détour. Et aussi, un double vinyle de la bande originale d'Éric Serra.
Ouais, c'est la totale.
Ah oui. Pour ceux qui vont se le procurer, c'est quand même des petits vénards.
Alors, il faut quand même se rappeler quand même que Éric Serra, pour sur ce coup-là, du coup, a écrit une musique symphonique quand même, hein,
puisque
on est loin de ces musiques un peu électro, pop rock.
Bon, enfin, il y a travaillé quand même. Hein,
Oui. Ouais, non, mais il a quand même, je trouve qu'il s'en est bien sorti sur ce film, même si personnellement, j'aurais pas pensé à Éric Serra, mais. Voilà, mais bon.
Je dirais que c'est l'association, hein, comme beaucoup de compositeurs qui ont travaillé avec
un réalisateur.
Voilà, c'est une fidélité qui a accompagné Luc Besson. Voilà.
Oui, ça, c'est tout à son honneur, finalement.
Tout à fait.
Et le film est quand même intéressant. Eh bien, merci Laurent pour cette sélection de Blu-ray DVD ce soir. Il est 22h sur la pendule de RTF. Vous écoutez Cinéscopie sur RTF, le magazine du cinéma et de la musique. Justement, la musique de film, on y revient. On va faire une petite pause musicale avant de vous parler de l'actualité du cinéma. Quels sont les films que nous avons vus cette semaine? Nous allons vous parler. Eh bien, il va falloir patienter quelques petites minutes, le temps d'écouter donc, eh bien, la musique d'un film. Laurent, je me tourne vers toi.
Alors, un film de SF.
Ouais.
Alors, qui est un petit peu ancien quand même. Ah. 1985. Voilà.
Ça ne nous rajeunit pas.
Non, vraiment.
Et pourtant, quelle année? Il y a très très bon film en 85.
Oui. Mais même dans les années 80, globalement, hein, même 90, hein, ça a été quand même, voilà, peut-être, il n'y a pas que des grands films, en tout cas, voilà. Donc, dans la distribution, eh bien, il y avait quand même une belle distribution, parce qu'il y avait Ethan Hawke, River Phoenix, Amanda Peterson et Robert Picardo.
Oui, mais parce que Robert Picardo, qui on rigole certainement, qui est un acteur qu'on retrouve souvent dans les films de Joe Dante, parce que je pense que tu vas nous parler d'un film de Joe Dante.
Voilà, j'allais le dire.
Ouais, oui.
Joe Dante pour le film Explorers. Musique signée Jerry Goldsmith, et qui racontait l'histoire d'un jeune qui adore la science-fiction et jour et nuit, et donc il dévore des livres évoquant des folles techniques qui pourraient, exister dans les univers parallèles ou mieux dans un futur proche. Bon, je pense que vous connaissez, certainement vu Explorers.
Explorers, oui, qui est quand même sorti. Donc, je l'avais vu lors de sa sortie à Los Angeles en 85. Mais c'est un film qui, quand même, n'a pas remporté un très grand succès. C'est parce que, comme souvent, il y a un côté iconoclaste, hein, c'est chez Joe Dante. Et là, c'est vrai que c'est assez particulier, mais c'est un film assez attachant tout de même. En plus, techniquement, il est assez abouti. Je trouve qu'il y a de bons effets spéciaux. Il y a un côté Spielbergien quand même, parce que là, on se retrouve aussi à filmer la banlieue américaine avec ces jeunes qui essaient de construire un vaisseau spatial. Et donc, il y a une magie un petit peu qui est. D'ailleurs, je me demande si c'est pas coproduit par Amblin Entertainment. Enfin, non, c'est peut-être pas. Mais enfin, on est un peu dans l'esprit quand même.
Je crois que c'est Paramount.
Paramount, là, du coup. Mais voilà. Et Jerry Goldsmith, justement, collaborateur attitré de Joe Dante sur plusieurs films, hein, aussi. Hein, donc on peut parler de fidélité au long cours.
Hein. Bah oui. Et donc là, pour le coup, musicalement, eh bien, ça va être d'ailleurs une bande originale qui va être à l'honneur, parce que je crois qu'il y a une réédition qui est en préparation chez Intrada, ouais. Un double CD. Il y avait déjà eu une édition, je crois, de la part du même label.
Ouais.
Je ne sais pas s'il y aura véritablement de grosses nouveautés, en tout cas, concernant cette édition-là. Mais enfin, en tout cas, la précédente étant épuisée, eh bien, vous aurez l'opportunité, eh bien, de découvrir, eh bien, l'intégralité des différentes prises de son, versions sur ce bel album qui s'annonce un petit peu cher quand même au passage, parce qu'il flirte quand même avec une quarantaine d'euros, hein, semble-t-il.
Après, c'est vrai que c'est je trouve que c'est une belle partition de Goldsmith, donc c'est vrai que voilà, si je pense que c'est il y a la magie qui opère là.
Dans la structure orchestral qui allie eh bien orchestre synthétique et orchestre symphonique, c'est un petit peu ce qui définit un peu la patte de Goldsmith très souvent. Et donc là, on va l'écouter sur une version, la version originale de l'album qui était sorti à l'époque chez le label Vares Sarabande, qui était un label incontournable de la musique de film. Voilà. Donc on va écouter eh bien un des thèmes final, Have a Nice Trip, et on est parti pour 8 minutes de voyage dans l'univers d'Explorers. Les films de la semaine, ce soir.
La bataille de Gaulle, film réalisé par Antonin Baudry avec Simon Abkarian. Et The Furious, film de Kenji Tanigaki avec Moïse, Joe Taslim et Jiao Miao. Pas facile à dire, hein. Alors on va commencer par le biopic, il y en a qui disent que c'est pas vraiment un biopic, enfin c'est quand même une sorte de biopic, La Bataille de Gaulle, avec Simon Abkarian dans le rôle du général, un film qui en fait est la première partie d'un diptyque, puisque le premier s'intitule L'Âge de Fer, et le second, on le verra début juillet. Voilà, donc un film produit par Pathé, et qui est une grosse production, parce qu'en fait, l'ensemble des deux films aurait coûté la bagatelle de pratiquement 100 millions d'euros. Voilà, alors, donc, la première partie raconte, eh bien, comment...
10 ans de maturité, quand même, hein, pour
oui,
arriver...
Oui. C'est... Voilà.
C'est énorme.
C'est assez énorme. Donc, ça raconte, dans la première partie, comment, finalement, De Gaulle s'est imposé comme le leader de la France libre à Londres. Eh bien, c'était pas donné, parce qu'évidemment, personne ne connaissait ce général. Donc, le film va nous raconter ça, et c'est un film qui contient, finalement, même... il y a presque trois films en un, c'est-à-dire qu'effectivement il y a d'abord effectivement la trajectoire du général de Gaulle avec un petit peu toutes les tractations en coulisses avec les alliés, avec Churchill notamment, on voit comment ça se passe, et puis il y a aussi le film de résistance, puisqu'on va suivre un jeune résistant, son parcours, et un troisième film qui serait plus spécifiquement le film de guerre en quelque sorte, avec les scènes de bataille, et le focus est mis en particulier sur la reconstitution de la bataille de Bir Hakeim, avec Général Koenig, interprété dans le film par Benoît Magimel. Donc on a ça. Alors le film est quand même assez intéressant. Il y a un petit côté, il est pas forcément il donne une image du général de Gaulle un peu ambivalente, et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que le général de Gaulle, il n'est pas figé dans une vocation hagiographique. Il nous fait sourire même. Il a un côté un peu, je dirais pas burlesque, mais un peu proche du ridicule. D'ailleurs, à plusieurs moments dans le film, on le compare à Don Quichotte. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté Don Quichottesque chez ce personnage, et il y a des scènes, alors effectivement. Donc le film n'hésite pas à s'attaquer vraiment à la figure du général, à en faire quelqu'un d'humain. D'ailleurs, on le voit même à un moment donné prendre son bain. Hein, donc ça c'est intéressant. Il ne déboulonne pas le mythe, c'est pas l'objectif d'ailleurs, mais une approche un peu plus humaine du personnage. Et ça c'est peut-être peut-être le plus intéressant. Et Simon Abkarian, que je ne voyais pas forcément dans le rôle, finalement j'ai trouvé plutôt convaincant au finish dans ce film. Alors par contre, et après je te laisse le micro, je trouve qu'il y a quand même quelques petits défauts dans le film. C'est tout d'abord l'utilisation de l'image de synthèse. Je trouve qu'il y a des effets spéciaux numériques. Dans l'ensemble, c'est pas mal fait, mais à d'autres moments quand même, je trouve que c'est assez moche, ça fonctionne pas trop. Et j'ai eu très peur sur une séquence de début qui se passe sous l'Arc de Triomphe, et là je me suis dit oulala, où on va, qu'est-ce que c'est que ce film. Et d'ailleurs cette scène, ça m'a fait penser à un docu-fiction de France 2, vous savez, le 13h30 de Laurent Delahousse le dimanche. Donc je me suis dit tiens, on en est là, et j'ai vraiment eu très peur. Donc il y a des moments ça fonctionne plus ou moins, et je me suis dit, pour un film qui a coûté 50 millions d'euros quand même, bon. Et alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux numériques, d'ailleurs on le voit au générique de fin, c'est Buff qui a fait les effets spéciaux numériques en grande partie. Dans l'ensemble c'est réussi, mais c'est vrai qu'il y a ces petites choses. Le film en plus, alors la musique du film, j'ai trouvé que la musique était pas franchement géniale. Elle fait le taf, mais je la trouve pas forcément très, très originale justement. Et puis enfin, le film est peut-être un chouille trop long, mais enfin bon, il y a beaucoup de choses à dire quand même. Le film reste assez dense. Voilà, donc, et il y a quand même, alors si Antonin Baudry, j'ai eu la sensation dans ce film qu'il était un petit peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'à la fois de faire un film un peu différent, une approche un petit peu différente, un peu plus iconoclaste, et puis comme c'est un film qui coûte très cher, il est à la tête d'un énorme budget, rester dans une certaine forme d'académisme. Donc le film balance un petit peu entre les deux, pour moi un petit peu plus du côté de l'académisme, donc j'attends le deuxième volet. Sinon c'est globalement, je trouve que le casting est excellent, la photo aussi, et puis ça reste quand même assez passionnant. Laurent, qu'en as-tu pensé?
agréablement surpris, étant donné que j'ai vu quasiment tous les films sur De Gaulle, et on peut dire que là on change véritablement de braquet pour ce film-là, tout simplement parce que on donne véritablement les moyens à cerner ce personnage assez complexe qui relève un petit peu du mythe aujourd'hui, parce que tout le monde y fait référence.
Tout le monde s'en réclame,
à juste ou mauvais titre d'ailleurs, mais enfin peu importe, on va pas rentrer dans ce débat-là. Mais la seule chose, c'est que c'est un homme complexe. Et en tout cas, sans être pédagogique, en tout cas, on assiste véritablement à le replacement du personnage au sein même du contexte historique. Et ça, c'est quand même relativement très intéressant de voir, en tout cas, sur ce premier volet, parce que forcément, on n'a pas du tout de vision sur le deuxième. En tout cas, ce premier volet. Et pour ma part, très réussi, en tout cas, même s'il y a au casting des comédiens hyper connus, on pouvait s'attendre à un défilé, mais pas du tout. Véritablement, là, il y a vraiment une direction d'acteur qui maîtrise totalement, je dirais, le projet. Et donc avec un ton juste, je crois que d'ailleurs c'est le point fort de ce film, c'est l'écriture. Et donc du coup, alors c'est un avis un petit peu peut-être partial, parce que j'adore l'acteur Simon Abkarian, mais je trouve que véritablement il donne une ossature et un relief au personnage, parce que d'une part cet acteur est arménien, et donc il a connu aussi, je dirais, dans sa vie, la période de Gaulle, mais en tout cas dans son parcours d'Arménien, il a été véritablement bafoué par pas tout un tas de régimes, ce qui fait qu'en fait il y a véritablement une sensibilité et une approche qui est totalement différente d'un autre acteur. Donc je trouve que là c'est certainement un très bon choix de la part du metteur en scène. Deuxième chose, on y retrouve aussi un autre acteur que j'apprécie particulièrement, c'est Benoît Magimel, qui est vraiment excellent dans le film aussi, alors qu'on le voit plutôt dans la dernière partie. Mais il y a aussi Nils Schneider, Thierry Lhermitte au passage,
Thierry Lhermitte, je pense que ce sera plus sur la deuxième partie, me semble-t-il.
Tout à fait. Il y a aussi Mathieu Kassovitz
en amiral Darlan.
Qui joue Darlan. Qui est vraiment, là
il
encore,
très bien, d'ailleurs,
assez excellent. C'est un bon réalisateur, mais c'est un bon acteur aussi. Alors moi, je n'ai pas retrouvé, par moment, cette médiocrité sur les effets spéciaux. Par contre, je trouve que, alors je rejoins totalement Chris sur le choix du compositeur, c'est totalement anachronique. Et c'est un peu dommage, d'ailleurs, parce qu'il vient un petit peu... je vais être un peu vulgaire, mais saloper le travail, si je puis dire, sur un registre qui est totalement classique. C'est pas archi classique, mais je veux dire qu'on s'attendait peut-être plutôt à une musique symphonique qu'une musique synthétique. Enfin, moi personnellement, ça m'a un petit peu choqué, parce que par moment, elle devient un peu trop bruyante. Voilà.
Alors, ce qu'il y a sur le deuxième volet, ça sera pas le même. Parce que là, c'est Volker Bertelmann qui a fait la musique, mais c'est pas le même compositeur sur le deuxième film.
Donc là, je pense que c'est vraiment un mauvais choix de casting sur la musique. Parce que tout simplement, je pense que, enfin, ça prend pas. Quoi. Franchement,
oui,
ça ne prend pas.
C'est pas mémorable. Voilà,
en plus, c'est une musique très fonctionnelle, sans thème véritablement identifiable. Mmh. Même si
on a entendu 500 fois
dans des aficionados de musique de film, mais là franchement, je sais pas quelle idée on a pu choisir, en tout cas dans un registre totalement moderne pour un film comme ça. Voilà.
Mais bon, je pense qu'il y a il est en vogue, Volker Bertelmann, puisqu'il a fait la musique d'A l'Ouest Rien de Nouveau. Il est bon, il a fait Conclave il y a pas longtemps. Bon, voilà, il est.
C'est pas. En tout cas, c'est pas sur ce choix-là où je me serais porté, en tout cas dans ce registre-là. Question longueur, j'ai trouvé que relativement fluide. Il y a une entrée en matière qui est vraiment assez excellente, quand même.
Avec l'arrivée des Allemands.
C'est
une très bonne scène.
Je trouve que, en tout cas, l'angle d'attaque du réalisateur est assez. Assez malin, je dirais. Ouais. Et franchement, puis ça annonce, je dirais, l'espèce de projet assez colossal qu'est ce film-là.
Ouais. Après, c'est un peu dommage que il y a ensuite ces séquences d'ouverture à Paris avec le jeune homme qui va devenir résistant. Je trouve qu'elles sont un petit peu foirées, mais bon, c'est un peu dommage.
Oui, mais bon, peut-être que ça.
Après, heureusement, le.
Alors, je dirais que ça manque peut-être un petit peu de temps pour vraiment étaler. Le sujet est dense, hein, parce que ça couvre quand même pas mal d'années. Et c'est vrai que ce registre de résistance aurait pu être aussi développé, mais là, pour le coup, je pense qu'il aurait fallu faire au moins peut-être 3 films. Facile. Mais ça aurait peut-être mérité d'ailleurs, hein, pourquoi pas.
Totalement.
Mais bon, c'est vrai que le format n'est pas forcément porteur. Les films très longs, c'est vrai que le public n'en raffole pas vraiment. Ou alors, il faut vraiment que ça soit très bon. Et donc là, l'avantage quand même, c'est que dans le registre, c'est que le deuxième volet va sortir assez vite. Donc, on n'aura pas, mais quand il y a 6, 8 mois, 1 an d'attente, là par contre, je trouve que c'est plus handicapant pour un film d'exister que d'avoir véritablement la suite assez rapidement, ce qui est le cas début juillet, je crois. Nous aurons donc la suite de Gaulle. Mais franchement, globalement, c'est vraiment d'excellente qualité, et c'est pas parce que c'est une production française, mais là c'est une grande réussite, moi je trouve, parce que c'est à mon avis la première fois qu'est abordé un sujet de De Gaulle aussi fouillé et aussi précis que celui-ci.
Donc vous pouvez aller voir ce film d'Antonin Baudry, La bataille de Gaulle, et très rapidement The Furious, le film du japonais Kenji Tanagaki, l'histoire d'un père de famille dont la fille est enlevée par d'affreux trafiquants d'êtres humains, ce qu'ils ignorent, c'est que ce père de famille est un expert en arts martiaux. C'est un film qui dure pas loin de 2 heures, réalisé par un ancien chorégraphe de scènes d'action, Kenji Tanigaki, mais qui est assisté d'ailleurs par un autre chorégraphe qui fait les chorégraphies du film. C'est un film tourné en scope, une très belle photographie, un très bon casting, énormément de scènes d'action. On ne s'ennuie à aucun moment. Il y a peut-être même presque trop de scènes d'action. C'est parfaitement exécuté. Vous allez voir des choses inédites au cinéma, je pense, dans le domaine des arts martiaux. Et quant à la scène finale, qui dure une vingtaine de minutes, elle dépote, elle déchire, franchement. Donc, vous l'avez deviné, The Furious, c'est le film d'arts martiaux à aller voir actuellement. C'est pas aussi bien que The Raid 1 et 2, malheureusement, puisqu'il y a quand même des petits problèmes de vraisemblance à certains moments. Donc, je dirais des problèmes de scénario, et notamment il y a une scène au milieu du film, la scène avec les enfants, mais je vais pas spoiler, là il y a quand même à mon avis quelques petits problèmes, et puis bon, il y a quand même aussi un acteur un très méchant dans le film d'ailleurs. On croit qu'il est mort, mais il est pas mort, et on se demande comment c'est possible qu'il soit pas mort, parce qu'avec tout ce qui se prend la tronche, bon, c'est pas possible. Donc il y a quelques petits problèmes de vraisemblance à certains moments, et c'est bien dommage, parce que sinon vous pouvez aller le voir. Voilà, ce sont nos deux recommandations de ce soir, The Furious, parce que ça porte bien son nom, hein, The Furious, et puis La Bataille de Gaulle, bien sûr.
Alors on a vu d'autres films, hein, mais on en est un petit peu pris par le temps. Ouais. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre sélection, et elle est conséquente, hein, mais voilà.
Et oui, on vous parlera de Disclosure Day, notamment.
Oui, et de Fils de Personne aussi, de Safin Nebbou, entre autres. Voilà. Donc, on est parti pour une nouvelle pause musicale concernant un film fantastique, et là, on suit peut-être une sorte de progression, si je puis dire, parce qu'on a on a écouté plutôt la musique d'Explorers, et là on va écouter la musique de La Mouche, film de David Cronenberg, réalisé en 1986 avec entre autres David Cronenberg, hein, qui jouait le rôle du gynécologue, hein, dans le film, et aussi Jeff Goldblum et Gina Davis, et la musique était signée Howard Shore, et je vais vous dire l'ouverture est assez grandiloquente, en tout cas dans un style un petit peu pompier, mais voilà.
Du côté gothique.
Oui, mais bon, voilà. C'est, en tout cas, on sent véritablement une musique de caractère chez Howard Shore. Allez, on écoute cela. Ça dure à peu près un petit peu moins de 3 minutes et on se retrouve juste après pour vous annoncer les sorties de la semaine.
C'était la musique du film La Mouche de David Cronenberg, musique signée Howard Shore, vraiment très très spectaculaire, un film assez génial qui a fait l'objet d'ailleurs d'une suite réalisée par Chris Wallace avec Eric Stoltz dans le rôle principal, et la musique là par contre était signée Christopher Young. Alors maintenant, il est l'heure de vous parler des films qui vont sortir sur vos écrans de cinéma ce mercredi. Voilà, il va faire très très chaud, donc c'est l'occasion d'aller se rafraîchir dans les salles. Mais quels sont donc les films qu'on va pouvoir découvrir mercredi. Je me tourne vers toi, Laurent, tu as le listing.
Alors, sur Limoges, nous pourrons voir un film d'animation des studios Bobby Pills. C'est le film d'animation Jim Quinn, qui en fait, c'est un long métrage réalisé par Marco Nguyen, et donc en fait qui raconte l'histoire. C'est une fable gay en fait, hein, sur un virus qui rend hétéro. Voilà, c'est assez original quand même. Comédie animée, crue d'ailleurs, drôle et politiquement charpentée. Et si la pop était une arme de résistance massive, voilà un petit peu ce film qui débarque donc sur les écrans limougeaux. Alors la grosse sortie, c'est encore un film d'animation. Et là, pour le coup, c'est le cinquième volet de Toy Story qui débarque sur les écrans. Et bien sûr, un incontournable, je dirais.
Je pense que c'est un succès assuré pour Toy Story.
Je pense, réellement, je pense. Ça va être eh bien, peut-être l'ouverture, je dirais, des gros blockbusters américains qui ont l'habitude de débouler sur nos écrans au mois de juin.
Eh oui, parce que l'été arrive le week-end prochain, mine de rien.
Eh oui. Alors, autre film, nous aurons un film dramatique, L'illusion de Yakushima. Donc, un film de Naomi. Je recherche un petit peu mes notes. Un film de Naomi Kawase, et donc qui en fait raconte l'histoire de Cory, qui est une Française qui vit au Japon et qui s'occupe d'enfants en attente de greffe cardiaque à l'hôpital de Kobe. Et alors que la culture japonaise a du mal à accepter le don d'organes, eh bien Cory se bat au quotidien pour faire évoluer les mentalités et trouver plus de donneurs. Voilà. Autre film, c'est le film Shana. Un film de Lila Pinel qui raconte l'histoire bien de Shana qui traverse les galères du quotidien avec une énergie débordante et le soutien de sa bande de copines. Et lorsque sa grand-mère décède, eh bien, elle hérite d'une bague censée protéger du mauvais œil. Voilà. Et dans ce film, eh bien, on retrouve Noémie Lvovsky en tant qu'actrice. Mmh. Et donc, voilà, ça peut être aussi assez intéressant. Autre film, alors rien à voir avec celui qui est annoncé courant juillet, mais qui s'intitule Ulysse. Voilà. C'est un film, une comédie dramatique de Laetitia Masson avec Élodie Bouchèze, Alphonse Roberts, qui raconte l'histoire d'Alice, qui est une chercheuse en sociologie, qui découvre qu'elle est enceinte. Et donc Luc, son mari, exulte, et ce sera un garçon. Ils l'appelleront Ulysse, et sauf qu'à un an, eh bien, Ulysse ne rentre pas dans les courbes, et donc trop petit, trop maigre. Et donc les pédiatres s'interrogent et le verdict tombe, c'est un syndrome génétique. Voilà, donc cette sortie, eh bien, sera sur nos écrans. Eh bien, et pour en terminer, nous pourrons voir à partir aussi de mercredi, eh bien, le film de Carey Parsons, Backrooms, un film peut-être très intéressant qui raconte une étrange porte qui apparaît dans le sous-sol d'un magasin de meubles.
Oui, Ken Parsons, je crois que c'est un youtubeur, c'est un jeune youtubeur, puis qui a fait comme ça des petites vidéos étranges, et il a développé le concept pour ce film qui apparemment fait le buzz actuellement, hein, ce Backrooms.
Ensuite, nous pourrons voir Devient Génial, qui est une comédie de Léo Grandperret. On pourra voir aussi la Baleine et le Musicien, qui est un documentaire. Et on pourra voir aussi The Giacomo, film de Baptiste Drano, qui raconte l'histoire de Giacomo pour atteindre 1 million de followers, ne reculera devant rien. Et de Amiens à Dubaï, l'ascension vertigineuse d'un influenceur prêt à franchir toutes les limites pour faire exploser le buzz.
Ah, il paraît que c'est pas mal, hein. J'ai entendu dire que c'était un film assez intéressant, on va surveiller ça, The Giacomo.
Oui. Donc voilà, c'en est tout.
Merci.
Nos petites sorties sur les écrans Limougeaux.
Merci Laurent, on va vous laisser en compagnie des programmes de la station RTF et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain à partir de 20h45 pour une nouvelle émission Cinéscopie consacrée au cinéma et à la musique de film. On vous souhaite une excellente semaine dans les salles, profitez-en.
Allez vous rafraîchir dans les salles obscures. C'est le moment ou jamais, surtout que apparemment l'événement caniculaire va être intense et va être duré, semble-t-il.
Oula, bon, alors c'est le moment justement d'aller se climatiser dans les salles de cinéma. Mes chers amis, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une excellente semaine. Et Laurent également, bien sûr.
Bien sûr, bonne semaine à toi, bonne semaine à vous.
Et oui, et puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, bye bye.